À l'occasion de l'année jubilaire thomasienne, le père Jean-Thomas de Beauregard était invité à l'amphithéâtre de l'Immaculée Conception à Pau pour y présenter une conférence intitulée « Saint Thomas d'Aquin, docteur angélique ». Cette conférence, organisée dans le cadre des plus de la formation permanente, s'est tenue le vendredi 10 octobre 2025. Nous écoutons le père Jean-Thomas de Beauregard.
Bonsoir à tous. Donc, on m'a demandé de vous parler de Saint Thomas d'Aquin et de vous le présenter d'une manière qui soit abordable pour des gens qui ne sont pas spécialistes. Et le fait est que Saint Thomas d'Aquin peut impressionner vu de loin, et même d'ailleurs vu de près, parce qu'il est à la fois philosophe, théologien, sans doute l'un des plus grands de l'histoire de l'Église, et même de l'histoire de la pensée occidentale. Il y a par exemple, il se trouve que, ayant vécu en Chine, je suis un peu en contact avec des universitaires chinois qui étudient saint Thomas, parce qu'ils ont beau être communistes, ils ont une vision assez pragmatique de l'histoire de la pensée occidentale, et donc se disent, ils regardent ce qu'est la pensée occidentale, ils voient la place qui occupe saint Thomas, et se disent, il faut étudier saint Thomas. Et saint Thomas est par ailleurs qualifié par l'Église de docteur commun, c'est-à-dire celui auquel tous peuvent se référer en tout domaine comme une autorité sûre. Il y a d'autres saints qui sont évidemment docteurs de l'Église, mais souvent dans un domaine spécialisé. On va parler par exemple, je ne sais pas moi, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus comme le docteur de la petite voix et de l'humilité, Saint Augustin comme le docteur de l'amour, etc., etc. Saint Thomas d'Aquin, l'Église en parle comme du docteur commun, non pas au sens où il serait commun comme banal, mais au sens de docteur pour tous et d'une certaine manière dans tous les domaines. Et puis il a cette œuvre qui compte plusieurs dizaines de milliers de pages, plusieurs dizaines de volumes, des rayonnages entiers de bibliothèques, bref, de quoi décourager. On admire de loin, mais on hésite à s'approcher. Et comme il arrive parfois, on comprend mieux l'itinéraire de saint Thomas en commençant par la fin. C'est ainsi que le 6 décembre 1273, alors qu'il se rend au Concile de Lyon, où il est attendu comme expert théologique, le dominicain Thomas d'Aquin, alors en prière, entre en extase. Et lorsqu'il revient à lui, ce théologien qui a tant rédigé d'ouvrages dans des domaines divers déclare ne plus vouloir écrire une seule ligne. À son secrétaire, époque bénie où les dominicains professeurs de philosophie et de théologie avaient des secrétaires, j'aimerais parfois que ce soit encore le cas, mais bon, c'est comme ça. À son secrétaire qui lui en demande la raison de ce revirement soudain, Thomas explique « Je ne peux plus, tout ce que j'ai écrit me semble de la paille en comparaison de ce que j'ai vu. » Et quelques semaines plus tard, toujours en marche vers Lyon, une branche d'arbre lui entre dans l'œil et provoque une maladie qui en quelques jours l'emporte dans la mort. Nous sommes alors au début de l'an de grâce 1274, et celui qui fut donc l'un des plus grands philosophes et théologiens d'Occident meurt à 49 ans, probablement en partie de cette maladie, mais surtout d'épuisement, après une vie consacrée à la prédication, à la recherche, à l'enseignement, et aussi en voyage incessant, effectué à pied. Il a enseigné à Naples, à Paris, à Cologne, à Orvieto, à Rome, etc. Où l'on voit par ailleurs qu'on n'a pas attendu l'Union européenne pour que les étudiants et professeurs puissent voyager en échange dans toute l'Europe. Le Moyen-Âge et l'Église l'avaient déjà fait, plus et mieux. Le récit du refus par saint Thomas finissant d'écrire la moindre ligne supplémentaire est souvent cité, parfois par des étudiants malicieux, y compris chez nous, chez les dominicains, pour appuyer un certain anti-intellectualisme. Si Thomas d'Aquin lui-même récuse son œuvre comme de la paille par rapport à la vision des mystères de Dieu, à quoi cela servirait-il de se lancer dans l'effort philosophique et théologique? Mais évidemment, c'est se tromper lourdement d'interpréter le récit de cette manière. Thomas d'Aquin n'a jamais prétendu que son œuvre était vaine, ni même qu'il serait inutile de se consacrer à l'effort intellectuel. Et du reste, un autre récit proche dans le temps de celui que je viens de vous conter et qui fait presque penser à Don Camillo nous rapporte un dialogue entre Thomas d'Aquin en prière et Jésus au crucifix. Et Jésus s'adresse à Thomas, lui parlant comme je vous parle. Tu as bien écrit de moi, Thomas, que veux-tu en retour ? Tu as bien écrit de moi, Thomas, que veux-tu en retour ? Et Thomas de répondre, rien d'autre que toi, Seigneur. Je ne veux rien d'autre que toi, Seigneur, en retour pour ce que j'ai fait. Mais plus que la réponse magnifique de Thomas d'Aquin, qui affirme donc qu'il ne désire aucune autre récompense pour son travail que l'amitié et la vision de Dieu au ciel, qu'il obtiendra d'ailleurs très vite après, puisqu'il meurt dans la foulée, ce qui m'intéresse ici est l'attestation de Jésus. Si Jésus lui-même estime que les écrits de Thomas d'Aquin ont rendu justice au mystère qu'il tentait de pénétrer, qui serions-nous pour prétendre en nier la pertinence ? Ce que Thomas d'Aquin a affirmé, dans ces deux récits, quoique sous une forme différente, c'est que la sagesse philosophique et théologique, excellente et indispensable, n'est rien en comparaison de la réalité qu'elle entend décrire. Autrement dit, lorsque nous verrons Dieu face à face, ce sera incomparablement plus grand et plus magnifique que tout ce que nous avons pu en connaître ici-bas. Et pourtant, cela ne dispense certainement pas de jeter toute notre intelligence et toute notre volonté et notre cœur dans la recherche de Dieu dès ce monde qui passe, car cette recherche porte en elle-même sa propre récompense. Saint Thomas d'Aquin lui-même écrivait quelques années plus tôt dans un de ses ouvrages qui s'appelle le De Veritate, donc de la vérité. Je vous cite le passage un petit peu longuement pour que vous le compreniez. La recherche de la sagesse a ce privilège qu'en poursuivant son but, elle se suffit à elle-même. En ceci, la contemplation de la sagesse est comparable au jeu J-E-U, hein, au jeu pour deux raisons. D'abord parce que le jeu est délectable et que la contemplation de la sagesse entraîne la suprême délectation. Il y a de la joie, de la délectation, du plaisir à jouer. Et nous dit saint Thomas, la recherche de la sagesse aussi entraîne une très grande délectation. Ensuite, parce que, et ça me paraît très important, le jeu n'est pas ordonné à autre chose qu'à lui-même et qu'il trouve en lui sa propre fin, ce que l'on retrouve aussi dans la délectation de la sagesse. À l'inverse de ce qui se passe dans nos délectations ordinaires au sujet de ce que nous anticipons où le moindre retard trouble notre joie, parfois grandement, le retard d'un train par exemple, c'est en elle-même que la contemplation de la sagesse trouve la cause de sa délectation. Elle ne souffre donc d'aucune angoisse comme lorsqu'on doit attendre quelque chose. C'est pourquoi la sagesse divine compare sa propre délectation à celle du jeu, et il cite le livre des Proverbes, Proverbe 8, verset 30, « Je me réjouissais jour après jour en sa présence. » Je vais commenter, rassurez-vous. D'emblée, Thomas d'Aquin déplace notre perspective habituelle. Là où nous aurions tendance à parler d'effort, dès qu'il s'agit de rechercher la sagesse philosophique et théologique, ou même quelque sagesse que ce soit, Thomas compare la recherche de la sagesse à un plaisir et à un jeu. Non pas pour récuser ce que la recherche de la sagesse peut avoir de pénible, Thomas d'Aquin sait trop bien que la studiosité suppose un effort, souvent coûteux, d'autant plus que cette recherche ne porte de fruits que par la persévérance dans le temps. Mais alors pourquoi compare-t-il la recherche de la sagesse à un plaisir et à un jeu ? Parce que le jeu n'a aucune autre utilité que la joie qu'il procure, et qu'il en va de même pour la recherche de la sagesse. Pourquoi le jeu est-il indispensable ? Parce qu'il ne sert à rien. Et il en va bien ainsi de la sagesse. Indispensable parce qu'elle ne sert à rien. Je veux dire par là que la recherche de la sagesse n'est pas ordonnée à une utilité. La sagesse vaut pour elle-même, pour la joie que procure le fait de la rechercher, la joie qu'il y a à en trouver quelques fragments de cette sagesse, la joie qu'il y a à se reposer dans la possession de cette sagesse, fût-elle incomplète ou parfaite. Et C'est un enseignement que, pour ma part, je m'efforce de garder à l'esprit dans mes deux activités principales, comme professeur et directeur des études pour nos jeunes frères en formation, et comme aumônier du lycée de la Sauque, près de Bordeaux. Normalement, un lieu de formation, et ici vous êtes dans un lieu de formation permanente, un lieu de formation, lycée, université, etc., ne devrait jamais oublier cette dimension à la fois gratuite, ludique et joyeuse de l'étude. On n'étudie pas d'abord pour devenir ingénieur, avocat, journaliste, haut fonctionnaire, DRH, plombier, menuisier ou même dominicain, pourquoi pas. Mais on étudie parce que l'étude est bonne en elle-même, parce que la recherche de la sagesse contient en elle-même sa propre fin, sa propre récompense. Du reste, on sera un meilleur ingénieur, avocat, journaliste, haut fonctionnaire, DRH, plombier, menuisier ou dominicain si on a appris et si on a goûté la valeur intrinsèque de l'étude, qu'on y a trouvé de la joie et peut-être même quelque chose comme un jeu. Ensuite, je voudrais vous dire quelques mots parce que lire saint Thomas d'Aquin, ça semble à beaucoup trop compliqué. C'est souvent l'objection que j'entends, oui, mais Thomas d'Aquin quand même, oh, c'est technique, c'est compliqué, etc. Et de fait, quiconque essaie à notre époque d'entrer dans l'œuvre de Thomas d'Aquin peut vite être découragé. Ce n'est pas seulement une question de technicité de l'argumentation ou d'étrangeté des problématiques, parfois très situées dans le Moyen-Âge où il a écrit, ou d'écart chronologique par rapport à nous-mêmes. De toute façon, le même problème se poserait pour n'importe quel philosophe ou théologien. Et qu'on ne vienne pas me dire, je vous en supplie, qu'il y a un langage scolastique inaccessible au commun des mortels. Oui, bien sûr, il y a ce qu'on pourrait appeler les mots de la tribu. Mais la plupart ne sont pas si difficiles. Et d'ailleurs, Thomas d'Aquin ne fait qu'employer le langage philosophique et théologique de son temps, sans inventer un vocabulaire et une grammaire qui lui soient strictement personnels. Ce qui, au contraire, caractérise presque tous les penseurs, au moins depuis Kant, qui inventent à chaque fois leur propre vocabulaire, qui leur est propre, jusqu'à atteindre un sommet d'incompréhensibilité voulu et travaillé chez, par exemple, Heidegger. Bon. Quant aux philosophes français, on a parfois l'impression qu'ils pensent en allemand et traduisent en français, tant leur prose est embrouillée. Donc Thomas d'Aquin, plus compliqué que d'autres, pas tellement en réalité. Et dès lors qu'on entre dans une discipline, il y a un vocabulaire, c'est vrai pour le droit, c'est vrai pour la médecine, c'est vrai pour n'importe quelle discipline. Donc oui, il y a un petit coup d'entrée, une barrière à l'entrée, qui est d'entrer dans un certain vocabulaire, mais une fois cette barrière à l'entrée levée, c'est pas forcément plus compliqué que tel autre ou tel autre penseur. Là où peut-être Thomas d'Aquin n'est pas d'un abord évident, c'est que si on compare avec saint Augustin ou avec saint Bernard, dont les écrits sont pourtant 2 siècles respectivement et presque 8 siècles antérieurs à ceux de saint Thomas, eh bien leurs écrits à saint Augustin ou saint Bernard, qui sont parfois tout aussi techniques pourtant, et sur des sujets qui peuvent nous sembler tout aussi exotiques, nous semblent plus familiers. Pourquoi ? Parce que Augustin et Bernard écrivent le plus souvent à la première personne, ce qui les rend attachants. Ils se racontent en même temps qu'ils exposent la vérité, et je n'y mets aucune connotation négative. Il y a quelque chose de biographique, si je puis dire, et d'existentiel. Ils racontent les choses souvent à la première personne. Par ailleurs, ce sont des stylistes, ça les rend agréables. Alors que Thomas d'Aquin, c'est vrai, ne parle jamais de lui et vise plutôt la clarté de l'expression que son agrément. C'est sa limite. C'est aussi, à mon sens, sa beauté. Parce que Thomas d'Aquin, toujours, s'efface devant la vérité qu'il expose. Et je dois dire qu'à notre époque de littérature souvent un peu nombriliste, entre, mettons, Christine Angot et Annie Ernaux, par exemple, ça fait bizarre, quelqu'un qui ne parle pas de soi et pas de son nombril, mais ça soulage. Bon. Alors oui, il y a un coup d'entrée pour lire Thomas d'Aquin, il faut se familiariser un peu avec un vocabulaire, avec quelques notions, mais le jeu en vaut la chandelle. Et celui qui cherche la sagesse avec saint Thomas d'Aquin pour maître, en sera vite récompensé et y trouvera sa joie. Si vous voulez peut-être un conseil, commencez par son commentaire du Credo ou son commentaire du Pater, puis lancez-vous dans la somme contre les gentils. Alors quand on dit somme contre les gentils, ce n'est pas que saint Thomas n'aime pas les gens qui sont gentils, les gentils c'est les païens, qu'il tâche de réfuter, puis la somme de théologie, puis les commentaires de l'Écriture sainte, en particulier celui de l'Évangile de Jean, qui est sans doute un sommet, et puis peut-être les commentaires d'Aristote pour ceux qui ont la tête la plus philosophique parmi vous. Je vais essayer de vous présenter deux thèmes ce soir, j'aurais pu en choisir plein d'autres, mais il faut bien en choisir, et qui soient peut-être accessibles, et le cas échéant, qui vous donnent envie de lire saint Thomas. Le premier thème, c'est celui de la morale de saint Thomas, que j'intitule « La morale thomasienne » ou « La vertu joyeuse ». Parce que j'ai évoqué tout à l'heure la joie que procure la recherche de la sagesse, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute l'œuvre de Thomas d'Aquin, et notamment en matière morale. Thomas commence la partie morale de la somme de théologie, en l'occurrence donc la prima secundae, dans la première partie de la deuxième partie de la somme de théologie, par la finalité de l'agir moral. Et qu'est-ce que c'est que la finalité de l'agir moral pour saint Thomas? C'est la béatitude. Tout l'agir humain, toutes nos actions, sont ordonnées à la joie de vivre auprès de Dieu pour l'éternité. Et parce que la joie de la béatitude est au terme de la vie humaine, à la fin, elle produit déjà ses effets pendant la vie humaine terrestre. Et ce faisant, Thomas d'Aquin s'inscrit en faux contre les trois morales les plus répandues dans l'inconscient collectif français et même catholique. J'ai nommé le stoïcisme, le jansénisme et le kantisme. Thomas d'Aquin, donc, d'abord récuse le stoïcisme. Vous le savez, le stoïcisme, cette morale antique prônée par des gens tout aussi estimables que Marc Aurèle, Épictète et toute la bande, Sénèque, bon, païen par ailleurs, mais peu importe, et ça ne les empêchait pas d'être intelligents, le stoïcisme entend atteindre l'ataraxie. L'ataraxie, c'est-à-dire l'extinction du désir, l'extinction des passions, au motif que le désir et les passions sont source d'inquiétude, d'insatisfaction, et donc ultimement de malheur. On en retrouve aujourd'hui les traces dans le vague bouddhisme de supermarché qui fait le fond de sagesse de l'Occident postmoderne. Éteins en toi tout désir, toute passion, et tu seras heureux. Eh bien, Thomas d'Aquin dit non, et même il dit l'inverse. Au contraire, notre désir est bon, parce que notre désir, fondamentalement, nous porte au bien. Et l'homme moral est un homme de désir infini, puisque l'homme moral a un désir qui le porte à Dieu lui-même. Et par ailleurs, Thomas d'Aquin nous dit que les passions ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, et au contraire, elles sont des moteurs utiles à l'agir moral, pour peu qu'on sache les ordonner au vrai bien. Donc, n'éteignez pas vos désirs, ils vous portent au bien, pourvu que vous les ordonniez grâce à votre raison, et n'éteignez pas non plus vos passions, parce qu'elles sont un moteur pour l'action, et que là aussi, si vous les ordonnez à la droite raison, elles vous feront aller loin, y compris par exemple la colère. La colère est une passion qui n'est pas mauvaise. Elle est neutre en elle-même, et elle peut vous porter au bien. D'accord ? Ne serait-ce que parce qu'elle vous fait vous indigner contre telle ou telle injustice et qu'elle vous porte à vouloir le bien. Du moment qu'elle est maîtrisée, ordonnée par la raison, alors elle est un moteur pour l'action. Donc, le stoïcisme, on écarte, parce que ça n'est pas vraiment humain que de vouloir effacer le désir ou effacer les passions. Thomas d'Aquin refuse aussi, par anticipation, le jansénisme. Je vais caricaturer un petit peu, mais c'est pour la pédagogie de la chose. Le jansénisme pour lequel Dieu, au fond, réserve le salut à une petite élite de parfaits, une petite élite de parfaits qui ont voulu être façonnés par la souffrance offerte en sacrifice. Je ne dis pas qu'il ne faille pas de temps en temps offrir sa souffrance en sacrifice. Il y a quelque chose de très beau et de très chrétien là-dedans. Mais Thomas affirme au contraire que le dessein bienveillant de Dieu est de sauver tous les hommes, et non pas seulement une petite élite de parfaits, en les faisant participer à sa vie divine, ce qu'on appelle la grâce puis la gloire. Et de volonté antécédente, c'est-à-dire de sa volonté éternelle, si l'on veut, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il n'y en a aucun que, a priori, il exclurait du salut. Et il accorde tous les moyens de grâce nécessaires à ce salut, à charge pour les hommes de répondre par leur vie aux sollicitations incessantes de la grâce. Exit donc l'idée que Dieu aurait prévu de toute éternité une toute petite partie de l'humanité qui serait sauvée. Non, non. Saint Thomas d'Aquin nous dit que Dieu veut sauver tous les hommes, propose sa grâce en abondance à tous, à charge à nous d'y répondre par nos actes. Thomas d'Aquin refuse enfin, par anticipation, là aussi, la morale kantienne, la morale issue d'Emmanuel Kant. Une morale qui est une morale de l'obligation externe, et une morale où l'agir humain est d'autant meilleur qu'il coûte davantage. Vous savez peut-être, si vous avez de vagues souvenirs de votre classe de terminale, la morale de Kant, elle se formule par des impératifs, tu dois, parce que c'est la loi qui s'impose à toi, la loi morale extérieure à toi qui s'impose à toi, et tu dois en plus y obéir à cette loi de manière totalement désintéressée. Et d'ailleurs, si tu trouves la moindre joie ou la moindre satisfaction à bien agir, alors ton action n'est plus tout à fait morale parce qu'elle devient impure dans ses motifs. Il y a cette idée que, quand même, si tu trouves de la joie ou de la satisfaction à bien agir, tu n'agis plus parce que l'action est bonne, mais parce que tu y trouves un peu de joie, un peu de plaisir, un peu de satisfaction, et donc ça n'est plus tout à fait moral. Eh bien, saint Thomas raisonne exactement à l'inverse. La question n'est pas quel est mon devoir, que je puisse l'accomplir de manière désintéressée, mais qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui me rendra heureux? Et par ailleurs, nous dit saint Thomas, si l'acquisition de la vertu peut être pénible, quant au moment de l'acquisition, il y a un temps d'acquisition qui peut être pénible, l'homme vertueux, celui qui a acquis la vertu, n'est pas celui qui fait le bien en serrant les dents, ah, plus ça coûte, mieux c'est, mais celui qui fait le bien avec aisance et avec joie. La marque de la vertu réellement acquise, c'est qu'on va faire le bien spontanément, avec facilité et avec joie. Thomas d'Aquin est ici l'élève de ce bon vieux païen d'Aristote, qu'il a audacieusement acclimaté en régime chrétien, parce qu'il y trouvait une philosophie réaliste, l'idée que l'intelligence atteint la réalité et pas seulement une représentation de la réalité, et aussi parce qu'il y trouvait une philosophie vraie dans ses fondements naturels. À l'école d'Aristote, Thomas d'Aquin estime donc que la vertu s'acquiert par répétition d'actes qui vont dans le même sens, et que, à force, la vertu acquise, il y a aussi des vertus infuses directement par Dieu, ça c'est autre chose, mais la vertu acquise est comparable aux gammes du musicien. À force de répéter péniblement ces gammes, le musicien acquiert une aisance qui lui permet d'exécuter à la perfection la partition qu'il a sous les yeux, de devenir meilleur musicien, voire même d'improviser si la situation l'exige, et le tout en y trouvant sa joie. Et on reconnaît le musicien au fait qu'en effet, il peut improviser, il peut trouver de la joie et le faire facilement. Eh bien, il en va de même dans la vie morale. Et c'est ainsi que, d'une manière totalement contre-intuitive pour nos mentalités façonnées, qu'on le veuille ou non, par le stoïcisme, par le jansénisme et par le kantisme, Thomas d'Aquin écrit ceci, je vous le cite, et vous allez voir, c'est totalement contre-intuitif pour nous, mais tellement libérant. Plus le sujet, vous, moi, plus le sujet opère avec plaisir étant donné sa vertu, plus son acte sera délectable et méritoire. Les actions vertueusement accomplies sont naturellement délectables, les actions vertueusement accomplies donnent de la joie, du plaisir. La délectation qu'on y prend appartient nécessairement à la vertu et entre dans sa définition. S'il n'y a pas de joie, s'il n'y a pas de plaisir, on n'est pas encore dans la vertu. Et on n'est pas bon, nous dit-il, ni vertueux, si l'on ne trouve pas sa joie à bien agir. C'est fort, ça, quand même. Non seulement l'homme n'est pas vertueux s'il ne trouve pas sa joie à bien agir, mais, nous dit-il, son acte sera d'autant plus méritoire qu'il y aura trouvé de la joie. Je vous signale que une bonne partie de l'éducation se plante complètement là-dessus, avec l'idée que plus ça coûte, mieux c'est. Si je serre les dents, j'allais dire même les fesses, eh bien là, ça fait plaisir à Dieu parce que etc. et ça me coûte, etc. Saint Thomas d'Aquin nous dit l'inverse. Ce sera d'autant plus méritoire quand la vertu sera acquise et que non seulement tu n'auras pas à serrer les dents, mais ça te donnera de la joie, tu le feras avec plaisir, avec aisance, avec facilité, etc., etc. On est loin de cette morale de l'effort crispé où plus ça fait mal, plus c'est bon. Vous savez, une infirmière en cornette dans la grande vadrouille, vous aimez bien tout ce qui est bon ? C'est très mauvais ! Bon, c'est quand même fort que ça vienne d'une religieuse catholique dans la grande vadrouille. Parce qu'en fait, c'est une morale protestante qu'ancienne. Et saint Thomas nous dit l'inverse. En même temps, il est réaliste, l'effort n'est pas dévalorisé, puisque cette situation où l'homme agit spontanément avec facilité et avec joie dans le sens du bien n'arrive qu'au terme d'un processus où, pour acquérir la vertu, il a fallu s'employer quand même un peu. Mais au terme du processus, l'homme vertueux devient, à sa mesure, semblable à Dieu, puisque Dieu opère toutes choses avec facilité et avec joie. Et donc en réalité, c'est bien de ça qu'il s'agit ultimement, sous la motion de la grâce et moyennant notre collaboration, agir de telle sorte qu'on en vienne à ressembler de plus en plus à Dieu, qui opère toutes choses avec facilité et avec joie. C'est ça la morale de saint Thomas. Ça va jusque-là ? Oui. Il faut que j'avance un petit peu quand même. Deuxième grand thème dont je voulais vous parler, ce qu'on appelle l'adoption filiale et la grâce, et la manière dont Thomas d'Aquin les présente. Vous le savez, Dieu veut nous diviniser. Et oui, selon une modalité particulière, il veut faire de nous des fils adoptifs, ce qu'on appelle donc l'adoption filiale. Ce que le Fils de toute éternité est par nature, Fils de Dieu, et donc Dieu lui-même, Dieu nous invite à le devenir, nous aussi, par grâce. C'est ça, l'œuvre de l'Esprit-Saint, c'est ce que nous écrit saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, je vous cite, « Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Enfant est donc héritier de Dieu et co-héritier du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Le Père éternel veut faire de nous ses enfants d'adoption. » Bon. Comment cette adoption filiale nous fait-elle ressembler au Christ lui-même ? Par le don de la grâce. Or, qu'est-ce que c'est la grâce ? Parce que ça, c'est vraiment le vocabulaire de la tribu. Les prêtres, les cathos, tout le monde a toujours ça à la bouche, et quand on leur demande de définir, je sais pas. Alors ce serait bien de savoir ce que c'est quand même que la grâce. La grâce, nous dit saint Pierre dans son épître, c'est une participation à la vie divine. Une participation à la vie divine qui nous est communiquée par le Christ dans l'Esprit-Saint. Et cette grâce, elle n'est pas quelque chose d'extérieur au Christ. La grâce, c'est quelque chose de Jésus lui-même qu'il nous communique. De telle sorte que, la grâce reçue au baptême, augmentée dans les sacrements, cultivée dans une vie de foi, d'espérance, de charité, nous fait ressembler au Christ. Je vais préciser un petit peu. Saint Pierre, donc, dans la deuxième épître de Saint Pierre, chapitre 1, verset 4, nous dit que notre destin est d'être rendu participant de la nature divine. C'est ça la grâce, hein ? Participant de la nature divine. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça signifie participer à la vie divine pour une créature limitée comme l'homme ? Eh bien, je vais le dire d'abord d'une manière abstraite et ensuite je vais illustrer. Participer, nous dit saint Thomas, c'est avoir partiellement ce qu'un autre est essentiellement, et cela parce qu'on l'a reçu de lui. C'est avoir partiellement ce qu'un autre lui est essentiellement, et cela parce qu'on l'a reçu de lui, de telle sorte qu'il y aura à la fois ressemblance et distinction. Évidemment, dit comme ça, une telle explication n'explique à peu près rien. Mais chacun d'entre vous a fait au moins une fois l'expérience de ce que j'appelle par participation. Certains d'entre vous ont peut-être été scouts, ou vous avez au moins fait de la cuisine. Le moindre scout en camp d'été, au milieu de la forêt, apprend vite à faire bouillir de l'eau sur le feu pour cuire les nouilles ou préparer une semoule. Si le scout a une once d'esprit métaphysique, ce qui n'est pas gagné quand même, parce que le scout est quand même un peu bourrin, mais bon, peu importe. J'ai été scout, hein, je me le permets. S'il a une once d'esprit métaphysique, notre scout constatera assez vite que l'eau bouillante participe de la chaleur du feu. L'eau bouillante possède de manière partielle la chaleur que le feu, lui, est essentiellement et qu'il lui a transmise. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'eau est ainsi rendue ressemblante au feu par sa température, et l'eau bouillante devient capable de certaines opérations qui sont normalement l'apanage du feu. En l'occurrence, l'eau bouillante devient capable de faire cuire les nouilles pour la troupe affamée. Et en même temps, le scout sait bien que son eau bouillante demeure différente et bien distincte du feu. D'accord ? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on affirme que la grâce de Dieu nous fait participer de sa vie divine. Par la grâce, l'homme participe de la nature divine et lui ressemble de plus en plus. Dieu vient habiter en nous, vient nous donner sa grâce, de telle sorte que nous possédons quelque chose partiellement de la nature divine, que Dieu lui est essentiellement, et nous devenons capables non seulement de connaître et d'aimer Dieu, ce qui est déjà au-delà de nos forces et que seul Dieu peut réellement accomplir, mais même nous devenons capables d'agir au-delà de nos forces naturelles, parfois même jusqu'au miracle. D'accord ? Nous devenons capables d'opérations qui normalement sont celles de Dieu, à commencer donc par connaître et aimer Dieu, et puis poser des actes qui sont au-delà de nos forces, jusqu'à la possibilité du miracle. La grâce est au fond comme une greffe qui nous permet d'agir divinement. Et donc la grâce, c'est ce don gratuit que Dieu fait de sa personne à l'homme qui la reçoit. Et ce don surélève notre nature humaine pour la rendre participante de la divinité. Au fond, c'est ce que Jésus enseigne dans la parabole de la vigne et des sarments, en Jean 15. La grâce, c'est la vie divine qui coule en nous, comme la sève de la vigne donne aux sarments leur vigueur. Et littéralement, nous pouvons alors dire avec saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Non seulement il vit en moi, mais il me donne d'agir comme lui. Et ces mots de saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, doivent être prises au sérieux. Pour le comprendre, une comparaison devrait suffire. La comparaison est de moi, pas de saint Thomas, vous allez vite comprendre pourquoi. Si un homme était fan de Johnny Hallyday, pourquoi pas ? Tous les goûts sont dans la nature. Bon. Il a choisi Johnny Hallyday pour son idole. et il va tout faire pour lui ressembler, comme on le voyait d'ailleurs à l'époque, des gens... Bon. Il va porter le bouc, se teindre les cheveux en blond, acheter un blouson en cuir et une Harley Davidson, peut-être même épouser successivement une Sylvie, une Nathalie, puis une Laetitia, bref. Et tout ça est très bien, mais fondamentalement, il ne fait que l'imiter de manière extérieure. Il ne sera jamais Johnny. Et d'ailleurs, si cet homme-là vient vers vous et dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est Johnny qui vit en moi », vous allez lui indiquer l'hôpital psychiatrique le plus proche. Parce que, en l'occurrence, ça restera une imitation extérieure, et d'ailleurs, la personne restera un étranger aux yeux de son idole. Alors que dans la grâce, Jésus vient réellement vivre en nous de telle manière que nous lui ressemblons de l'intérieur et non pas de l'extérieur, et que c'est réellement le Christ qui vient vivre en nous et nous donner de poser des actes qui sont ses actes à lui. Ça va, ça ? Dans la parabole de la vigne et des sarments dont je vous parlais à l'instant, Jésus insiste aussi sur les fruits. Saint Thomas la commente longuement, là je vous le synthétise. Parce que la vie dans le Christ et dans l'Esprit ne doit pas rester stérile. Si le Fils et l'Esprit Saint habitent en nous, ce n'est pas seulement pour y jouir d'un repos bien mérité. Par la grâce, Dieu hausse la nature humaine jusqu'à une hauteur inespérée qu'on constate chez les saints. Les actes, par exemple, des apôtres, chapitre 6, verset 8, on nous dit d'Étienne, « Étienne, rempli de grâce et de puissance, opérait de grands prodiges et signes. » Sous-entendu, parce qu'il était rempli de grâce, il opérait de grands prodiges et signes. Parce que le Christ habitait en lui, il était rendu capable d'actes qui excédaient ses forces naturelles et rendu capable d'actes qui étaient au fond des actes divins. La puissance d'agir de l'homme est surélevée par la grâce jusqu'à la possibilité du miracle. Jésus dit même à un moment dans l'Évangile, ça m'a toujours frappé, que par sa grâce, les saints peuvent faire des choses encore plus grandes que ce que lui-même a accompli durant le temps de son pèlerinage sur la terre. C'est fou quand on y réfléchit. Et d'une certaine manière, c'est vrai, quand on lit la vie des saints dans l'histoire de l'Église, il y a des saints, alors c'est toujours difficile de comparer, mais il y a des saints qui ont vécu ou fait des choses qui, quel que soit le critère qu'on adopte, peuvent paraître plus extraordinaires, plus spectaculaires, plus, etc., que parfois même ce que Jésus lui-même a fait. Et c'est normal, puisque Dieu et le Christ lui-même vient agir dans et par cette personne. Donc ça n'est pas offenser le Christ que de dire ça. C'est simplement l'action du Christ qui continue dans et par les saints. Si les saints peuvent par grâce accomplir des merveilles, c'est que, comme nous dit saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 13, « Dieu est là qui opère en vous à la fois le vouloir et l'opération même » au profit de ses bienveillants desseins. Dieu, autrement dit, nous donne de vouloir tel bien à accomplir, nous donne de l'accomplir au profit de son projet sur nous-mêmes et sur l'humanité. Mais ce qui est très beau, c'est qu'au fond, il n'y a aucune gloriole un peu vaine à en tirer. Nous ne faisons que coopérer à une juste place, à une œuvre qui nous dépasse. C'est ce que nous dit saint Paul. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu ? Et par ailleurs, et saint Thomas insiste beaucoup là-dessus aussi, c'est peut-être aussi parce que j'enseigne l'ecclésiologie que je suis sensible, si on revient à la parabole des sarments, de la vigne et des sarments, un seul sarment ne saurait produire du fruit, et encore moins suffisamment de raisins pour produire un excellent vin. Ce n'est qu'avec l'aide de toute la vigne et de tous les sarments que la vendange devient possible et réellement fructueuse. Aussi, la grâce ne produit-elle pas seulement notre union personnelle au Christ et à l'Esprit, ce qui serait déjà pas mal, mais notre union à tous les membres de son corps. C'est au cœur de l'Église, avec tous les membres du corps mystique, avec tous les chrétiens, qu'il s'agit de porter du fruit. Et par ailleurs, saint Thomas nous éveille à quelque chose, il faut vraiment que j'avance, c'est le fait que la grâce n'opère pas sans la nature, ni contre la nature. Je m'explique. la grâce vient s'appliquer sur une nature concrète, la nôtre, avec ses qualités et ses défauts. Et la grâce présuppose la nature individuelle qu'elle vient perfectionner. La nature que la grâce vient surélever, c'est à la fois la nature humaine en général, c'est-à-dire l'ensemble des caractéristiques qui font qu'un homme est un homme et qu'une femme est une femme, même si ces choses-là sont moins évidentes aujourd'hui, semble-t-il. Et c'est aussi cette nature particulière qui fait de Gontran ou d'Achille un spécimen unique au sein de l'espèce humaine, différent de Jeannot ou de je sais pas qui d'autre. Donc la grâce agit sur la nature humaine en général et sur la nature de Gontran en particulier, sans les brutaliser ni les nier l'une et l'autre. Autrement dit, et c'est très important, le miracle n'est pas la modalité ordinaire de la grâce. Et c'est d'ailleurs pour ça que la grâce demeure le plus souvent invisible ou faiblement visible, parce qu'elle vient se couler dans les dispositions concrètes et singulières de l'homme qu'elle vient transformer. Dieu, pour le dire autrement, je vais dire de manière un peu brutale, mais Dieu opère rarement pour faire d'un cul-de-jatte un champion du 100 mètres. Dieu opère rarement pour faire d'un obèse une danseuse étoile. Pourquoi ? Parce que la grâce tient compte de la nature qu'elle vient surélever et se coule dans les dispositions concrètes de la nature individuelle qu'elle vient surélever. Dieu tient compte des caractéristiques de sa propre création, il la connaît intimement, avec ses limites et aussi avec son potentiel inexploité. Et Thomas d'Aquin écrit donc à plusieurs reprises, si vous deviez retenir une chose de saint Thomas simple qui tient en une phrase, il écrit que la grâce perfectionne la nature, mais ne la supprime pas. La grâce perfectionne la nature, mais ne la supprime pas. Et cette manière de faire de la part de Dieu ne procède pas d'une incapacité de sa part. Dieu pourrait très bien court-circuiter la nature pour opérer vite et mieux. Et il le fait de temps en temps. C'est ça un miracle. C'est Dieu qui court-circuite la nature pour opérer vite et mieux. Mais Dieu choisit ordinairement de nous faire grandir en grâce dans la ligne de notre personnalité propre et d'agir dans le monde créé en respectant les lois naturelles qu'il a lui-même voulu. Et ce faisant, en réalité, Dieu respecte davantage la dignité de ses créatures, puisqu'il respecte ce qu'elles sont, la manière dont il les a faites, leur personnalité, leurs qualités et leurs défauts. Il respecte davantage la dignité de ses créatures, tout en honorant davantage donc les dons qu'il a déposés lui-même dans notre nature. Et comme l'écrit ailleurs Thomas d'Aquin, Dieu nous a donné la dignité de cause. Alors dit comme ça, ça paraît un peu abstrait et pas formidablement romantique. Mais en fait c'est très important. Dieu nous a donné la dignité de cause. C'est-à-dire que, et là aussi c'est un schéma qui souvent est faussé dans la conscience de beaucoup de chrétiens, Dieu estime plus glorieux de nous faire participer à sa propre action dans le monde que d'agir tout seul. Il y a un réflexe pieux, mais faux, qui voudrait croire qu'on exalte d'autant plus Dieu qu'on abaisse l'homme et réciproquement. C'est le cas dans la théologie musulmane, par exemple, c'est le cas dans la théologie protestante issue de Luther. L'idée qu'au fond, ce serait un modèle concurrentiel où pour exalter Dieu, il faudrait abaisser l'homme, et réciproquement, un système de vase communicant. Il n'en est rien. Dieu manifeste précisément sa grandeur et sa gloire en communiquant aux créatures que nous sommes une véritable capacité d'agir et de participer au projet qu'il a pour nous. Vous voyez ? Saint Thomas d'Aquin écrit dans la Somme contre les gentils, je vous le cite, « La perfection d'un effet est le signe de la perfection de sa cause. Plus puissante est sa force, plus parfait est son effet. Or, Dieu est le plus parfait des agents, de tous les gens qui agissent. Aussi faut-il qu'il donne la perfection aux êtres qu'il crée. Ainsi, soustraire quoi que ce soit à la perfection des créatures, c'est enlever quelque chose à la perfection de la puissance divine. Or, dans l'hypothèse de l'inefficacité de toute créature, au fond, on ne servirait à rien, etc., on n'aurait aucune capacité d'action, etc., la perfection du monde créé serait de beaucoup diminuée. Car c'est pour un être la plénitude de sa perfection que de pouvoir communiquer à un autre sa propre perfection. Et donc la position qui consisterait à soustraire quoi que ce soit à la perfection des créatures porte atteinte à la puissance divine. Au contraire, nous dit-il, Dieu a communiqué sa bonté aux créatures de telle sorte que ce que l'une a reçu, elle puisse même le transmettre aux autres. Refuser aux êtres leur action propre serait porter atteinte à la bonté divine. Je signale au passage que ce qui vaut des rapports entre Dieu et les hommes, tel que Thomas vient de le dire, vaut de tout rapport hiérarchique. Au sein d'une famille, au sein d'une entreprise, au sein d'une école, au sein d'une paroisse, d'un diocèse, etc. Un supérieur manifeste d'autant plus sa grandeur et sa perfection qu'il fait davantage participer ses subordonnés à l'agir commun, tandis qu'il se diminue à tout faire lui-même. Au fond, c'est le même schéma. Et nous, on a un peu cette tendance à imaginer la chose comme des vases communicants, qui est faux. Non seulement nous ne retirons rien à Dieu en agissant de toutes nos forces, mais au contraire, nous le glorifions par notre action. Et l'adage selon lequel la grâce perfectionne la nature sans la supprimer a une autre conséquence. Et cette conséquence, c'est que l'homme est invité à collaborer de toutes ses forces à l'œuvre de Dieu en lui. C'est là d'ailleurs que joue au maximum l'exercice des vertus dont je vous parlais tout à l'heure. Les vertus intellectuelles, les vertus morales, les vertus théologales. Par la répétition d'un acte dans un sens donné, l'homme acquiert une disposition stable, ce que saint Thomas appelle un habitus, une disposition stable qui lui donne d'accomplir ce type d'acte avec facilité et joie, en vue d'un bien qui non seulement est un bien qui peut être extérieur à lui, mais par le fait même qui va le perfectionner. Quand nous agissons bien, non seulement notre action est bonne, mais nous devenons meilleurs. C'est ça, une réelle action bonne. Et il s'agit donc de cultiver nos vertus, et ça passe par le travail. Saint Thomas cite souvent cette phrase de saint Augustin qu'on cite beaucoup après lui, « Dieu qui nous a créés sans nous ne veut pas nous sauver sans nous. » Bien entendu, il y a beaucoup de choses que Dieu peut et veut faire sans nous, mais le plus souvent, il choisit de nous rendre participants de sa propre action. L'homme n'est pas une marionnette entre les mains de Dieu, mais un collaborateur. Saint Paul l'affirme d'ailleurs. C'est la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Nous sommes les coopérateurs de Dieu. Si on résume un peu tout ce qu'on vient de dire là, dans l'enseignement de saint Thomas, Dieu a toujours l'initiative de nos actes bons, c'est lui qui suscite en nous le désir de tel acte bon. C'est lui qui nous en donne l'impulsion. C'est lui qui accompagne l'exécution de cet acte bon. C'est lui qui en garantit les fruits. Mais à chaque instant, il sollicite notre consentement et notre effort pour que cette action ait lieu et que ce faisant, nous collaborions à son œuvre et le glorifions par cette collaboration. Et, Roscoe Referens pour un dominicain, je citerai saint Ignace, « Agis comme si ta prière n'existait pas, prie comme si ton action n'existait pas. » Je conclus, parce qu'il est temps. Thomas d'Aquin est un maître pour l'intelligence chrétienne. Avec lui, l'intelligence n'est jamais un obstacle qui entrave la vie de foi et la sainteté, au contraire. On est vraiment très loin du fidéisme sur lequel plus on serait idiot, mieux on serait chrétien. Si Dieu nous a fait à son image, c'est-à-dire doté d'une intelligence et d'une volonté, c'est pour mieux le connaître, afin de mieux l'aimer, et de mieux connaître et de mieux aimer toute chose sous le rapport de Dieu. Il y a chez Thomas, et je trouve ça très beau, et je vous invite à l'imiter en cela, une grande confiance dans l'intelligence humaine illuminée par la grâce. Et en même temps, une très grande humilité. Par exemple, Thomas d'Aquin encourage à investiguer dans tous les domaines de la science sans jamais avoir peur que ça menace la foi. Parce que, dit-il, c'est une chose qui m'avait beaucoup éclairé quand j'étais plus jeune dans l'œuvre de saint Thomas, et que on gagne à répéter notamment aux étudiants, aux lycéens qui peuvent être troublés par les contradictions apparentes qu'ils voient entre la foi et la science. Thomas d'Aquin nous dit « S'il nous semble qu'une vérité de science s'oppose à une vérité de foi, c'est ou bien que nous prenons une vérité scientifique pour une vérité scientifique ce qui est une erreur ou que nous avons mal comprise cette vérité scientifique, ou bien que nous prenons pour une vérité de foi ce qui ne l'est pas, ou que nous avons mal compris cette vérité de foi. Mais il ne peut pas y avoir de contradiction entre les deux, puisque Dieu est l'auteur et de la raison scientifique et de la raison illuminée par la grâce, et qu'il ne peut pas se contredire lui-même. » Donc, de ce point de vue-là, par exemple, pour illustrer ça, quand il me semble que c'est Pie XII, qui autorise à faire tout un tas de recherches scientifiques et aussi de recherches archéologiques, notamment sous Saint-Pierre pour retrouver le tombeau de Rome, et de Saint-Pierre, etc. Bon. Le Concile Vatican II qui encourage à l'exégèse scientifique, et même avant lui, l'encyclique Divino Afflante, ça doit être aussi sous Pie XII, je pense. Donc à se munir de tous les outils de la science contemporaine pour examiner le texte biblique sous toutes ses coutures, etc. Saint Thomas serait à fond là-dedans. Parce qu'il dirait, on n'a rien à craindre de l'effort de la science si on l'amène jusqu'à son terme et de manière droite, parce qu'elle ne pourra jamais s'opposer aux vérités de foi. Dans le meilleur des cas, elle nous aidera à mieux comprendre certaines vérités de foi. Et donc, on n'a pas à s'y opposer. Et en matière de foi, justement, Thomas nous encourage là aussi à aller au plus loin, tout en sachant que nous n'aurons jamais fait le tour des mystères de Dieu. Il dit même cette chose, qu'il faut bien comprendre, il dit « Nous savons mieux de Dieu ce qu'il n'est pas que ce qu'il est. » Car, bien sûr, nos affirmations sur Dieu sont vraies, et même vraies absolument. Qu'il est bon, qu'il est tout-puissant, qu'il est juste, qu'il est miséricordieux, etc. Tout ça est vrai. Mais Dieu est tout cela d'une manière tout autre que l'expérience que nous en avons, nous, même affectée d'un coefficient d'infini. De telle sorte que, même si ces affirmations-là sont vraies, d'une certaine manière, nous savons mieux qu'il n'est pas bon à la manière dont nous pensons la bonté, nous savons qu'il n'est pas juste à la manière, même s'il est bon et s'il est juste, vous voyez un petit peu l'idée, mais c'est à la fois, on va très loin dans ce qu'on peut affirmer sur Dieu, et en même temps avec cette humilité de se dire, Dieu sera toujours au-delà de ce que les exposés de notre foi peuvent en dire. Mais même cette connaissance imparfaite est précieuse et vraie. On n'est pas dans ce qu'on appelle de manière pédante un apophatisme complet. C'est-à-dire, au fond, on ne peut rien dire de Dieu. Ouais. En règle générale, les gens qui sont dans l'apophatisme complet, ils vous vendent 10 volumes pour vous dire que surtout on ne peut rien dire de Dieu. Bon, il y a un moment, il faut savoir. Hein. Si on ne peut rien en dire, tais-toi. On peut en dire des choses simplement avec l'humilité de se dire que ça n'épuise pas le mystère de Dieu. Et enfin, c'est la fin de ma conclusion, saint Thomas nous encourage à la curiosité et à la magnanimité, c'est-à-dire le désir des grandes choses et puis accueillir les choses qui viennent d'ailleurs, dans notre relation aux sagesses humaines, même celles parfois un peu frelatées de notre époque. N'ayons pas peur de nous confronter aux pensées contemporaines, même quand elles sont complètement déviantes, ce qui est le cas d'une partie d'entre elles. Saint Thomas écrit, et je vous laisse là-dessus, c'est un très beau paragraphe que je lis souvent à mes étudiants de philosophie et de théologie, c'est dans la Somme contre les gentils, là aussi. « Quiconque veut sonder la vérité est aidé par les autres d'une double manière, directement et indirectement. Nous recevons un secours direct de ceux qui ont déjà trouvé la vérité. Si chacun des penseurs antérieurs a trouvé une parcelle de vérité, ces trouvailles réunies en un tout sont pour le chercheur qui vient après eux un moyen puissant d'arriver à une connaissance plus profonde de la vérité. Mais, dit-il, et c'est ça qui m'intéresse, nous sommes aussi aidés, indirectement, même par ceux qui se sont trompés, car ils ont donné à ceux qui sont venus après eux la possibilité de faire apparaître la vérité d'une manière plus claire par la discussion plus serrée qu'ils ont provoquée. Et je crois que c'est capital. Au fond, dans notre rapport aux sagesses, encore une fois, souvent un peu frelatées de notre époque, mais même quand elles sont fausses, la manière dont elles sont fausses nous provoque à affiner notre propre vision de la vérité catholique et de notre foi. Et par ailleurs, même quand elles sont fausses, les questions dont elles partent sont souvent une provocation utile à notre vie de foi. Elles sont parfois mal posées, elles sont souvent mal répondues, mais elles nous aident à approfondir notre propre foi. Et de ce point de vue-là, saint Thomas nous invite à ne pas dire « c'est faux, on ne s'y intéresse pas, et d'ailleurs voyez bien les conséquences, machin, etc. » mais à aller plus loin, à voir quelle était la question derrière, et comment ça m'aide à mieux comprendre ma propre foi. Donc une grande confiance dans l'intelligence humaine en général, même de ceux qui se trompent, à la recherche de la vérité. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir.
Vous venez de suivre saint Thomas d'Aquin, docteur angélique, une conférence du père Jean-Thomas de Beauregard, enregistrée dans le cadre des plus de la formation permanente à Pau. C'était le 10 octobre 2025.